Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet.
Bonjour à toutes et à tous. Donc si l'enseignement professionnel est aussi peu évoqué dans les documents, comme nous l'avons vu la semaine dernière, que dans les textes littéraires, eh bien, j'incline à penser que ce n'est pas un accident de nos sources. Sources, il est vrai, lacunaires. Et que la raison est à chercher dans un préjugé cultivé de longue date par les Grecs eux-mêmes. Alors ce préjugé consiste à opposer d'un côté la paideia, vous vous souvenez, hein, paideia c'est l'acquisition qui commence à l'école d'un savoir généraliste visant à un idéal de vie personnel mais aussi collectif, et de l'autre, la mise en pratique routinière d'un savoir spécialisé dans le cadre d'un métier. Alors cette opposition, qui peut se résumer à l'antagonisme entre arts libéraux et arts manuels ou artisanat, mettant en œuvre un système de valeurs qui valorise les premiers et qui déprécie les seconds. Cette opposition est absolument capitale pour notre sujet. Même si j'ai choisi de m'en tenir aux professionnels de l'écrit, dont le savoir relève en premier lieu des arts libéraux, ceux-ci pratiquent un métier qui, par sa nature, on va dire mécanique, et la dimension appliquée du savoir qu'ils mettent en œuvre, se range du côté des arts appliqués et de l'artisanat. Et donc l'éducation professionnelle, d'une certaine façon, a fait les frais de ce système de valeurs que j'aimerais maintenant approfondir avec vous. Alors l'opposition entre arts libéraux et artisanat recouvre dans la pensée grecque une série d'autres antithèses dont le second terme est systématiquement dévalorisé. Alors là, la première oppose la techné à l'impéria. La techné étant l'art en tant que science reposant sur la connaissance des causes, tandis que l'autre, l'impéria, est l'expérience empirique, qui est un savoir-faire ne demandant qu'à être reproduit. On comprendra mieux cette opposition à la lecture d'un passage du Gorgias de Platon dans lequel Socrate oppose la cuisine et la médecine. Je le cite, « La cuisine me semble être une routine ». Et alors là, le traducteur traduit par routine le mot « impéria », justement. Et non un art, techné, à la différence de la médecine. Et j'en donne cette raison, que l'une, la médecine, quand elle soigne un malade, a commencé par étudier la nature du malade, qu'elle sait pourquoi elle agit comme elle le fait, et peut justifier toutes ses démarches. Au lieu que l'autre, dont tout l'effort tend au plaisir, marche à son but sans aucun art, sans avoir étudié la nature du plaisir et ce qui le produit, livré pour ainsi dire au pur hasard, dépourvu de tout calcul, conservant seulement par une pratique routinière, impéria, le souvenir de ce qu'on fait d'habitude et cherchant par les mêmes moyens à procurer du plaisir. Donc médecine, voyez, médecine et cuisine utilisent toutes les deux des ingrédients. Mais seule la première est digne d'être considérée comme un art, car elle adapte les ingrédients à la maladie du patient dont le médecin a préalablement déterminé les causes, tandis que la seconde reproduit des combinaisons d'ingrédients mécaniquement et vise seulement au plaisir sans chercher à connaître les raisons pour lesquelles ces combinaisons y aboutissent. Alors, je doute évidemment qu'un tel raisonnement soit partagé par nos grandes toques, mais quoi qu'il en soit, il traduit le discrédit qui pèse sur certaines formes de savoir-faire, englobant aussi d'ailleurs des formes artistiques qui, chez nous, sont très valorisées. C'est ainsi que l'art de la flûte, vous vous souvenez, pour lequel on a un contrat d'apprentissage, l'art de la flûte est rabaissé au rang de routine et n'a pas le statut d'art, au point que, nous dit Aristote, Athéna, après avoir inventé la flûte, la renia. C'est, nous dit-il, parce que l'étude de la flûte n'enrichit en rien l'intelligence. Or, c'est à Athéna que nous attribuons la science épistémée et l'art techné. Et donc, évidemment, Athéna ne pouvait que, enfin, ne pouvait pas valider ce qu'était l'art de la flûte, puisque c'est une routine et non un art, non une épistémée. Alors, ce discrédit va si loin que les philosophes discutent de l'inclusion ou non des artisans dans le corps des citoyens. Platon, par exemple, propose dans ses lois de ne pas souffrir que travaille au métier d'artisan, diemourgoi en grec, aucun citoyen résident ni serviteur de citoyen résident. Cette dévalorisation a pesé aussi sur le lexique. Si, à côté de termes qui peuvent mettre en valeur, selon leurs auteurs, la maîtrise de l'artisan, notamment il y a un terme qui signifie artisan, qui insiste sur la techné, technites, ou sur son utilité publique, démurgos, qui vient de démos, le peuple, eh bien, le mot banosos, lui, qui désigne à l'origine un artisan du feu, prend un sens plus générique, artisan, qui est doté de connotations très négatives. Le banosos exerce un métier qui exige un effort physique, qui déforme le corps, en même temps qu'il mutile et dégrade l'âme, nous dit Platon. Le mot finit d'ailleurs par signifier quelque chose de vulgaire, grossier. De même, le mot épidiphrios, qui caractérise les activités artisanales sédentaires, qui se pratiquent accroupies, finit par désigner des personnes de basse condition auxquelles l'empereur Justinien va jusqu'à refuser le droit de témoigner en faisant des espèces de sous-citoyens. Et le mot finit d'ailleurs par signifier, d'après une glosse de la Souda, par signifier paresseux ou efféminé. Alors, autre opposition, les arts libéraux ont été considérés comme relevant d'une culture désintéressée. Par antithèse à l'artisanat qui implique une rémunération. Nous retrouvons là le fameux couple antinomique chez les latins osium, negotium, le premier désignant comme son équivalent grec scolé, qui a donné notre mot école, le temps pendant lequel une personne, loin justement des affaires, des négociats, peut se consacrer à des activités nobles comme l'étude. Alors, après Platon, qui caractérise, qui critique même l'utilitarisme intéressé de la sophistique et qui défend une culture désintéressée, qui vise non à l'utilité et au profit, mais à la transcendance de la vérité, et ainsi au développement spirituel de l'individu, sa paideia, eh bien, Aristote, après, voit dans la mistarnia, le fait de gagner un salaire, un mistos, eh bien, le principe fondateur de l'artisanat. Or, la notion de gain a pu véhiculer un préjugé très défavorable qui oppose l'homme libre, cultivant son osium en toute indépendance, à l'artisan qui, parce qu'il est rémunéré, est au service d'un maître et ainsi dépossédé de sa liberté. Je voudrais donner la parole à Cicéron dans le De Officiis, qui nous dit « Concernant maintenant les professionnels et les métiers qu'il faut tenir pour libéraux et ceux qu'il faut tenir pour vils, sordidi en latin, voici à peu près ce que nous avons appris. Premièrement, sont désapprouvés les métiers qui encourent la haine des hommes, comme par exemple celui des collecteurs d'impôts et des usuriers. Ensuite, sont indignes d'un homme libre et sont vils les métiers de tous les salariés, dont on achète la peine et non les compétences. En effet, le salaire versé à des hommes est lui-même le prix de leur servitude. Doivent également être tenus pour vils ceux qui achètent à des marchands des produits qu'ils mettent aussitôt en vente. Ils ne réaliseraient aucun profit s'ils n'accumulaient pas les mensonges, et rien assurément n'est plus honteux que cette tromperie. Tous les artisans exercent une profession vile, car il ne peut y avoir de noblesse dans un atelier. Ce sont des mots très forts. Comme le note Edmond Lévy dans son étude sur l'artisan dans la politique d'Aristote, eh bien, la liberté étant liée à la libre disposition de son temps, le travail pour autrui est considéré comme une forme de servitude. Aristote affirme même que l'homme de bien Le politique et le bon citoyen ne doivent pas apprendre à pratiquer les travaux des sujets, sauf éventuellement pour leur usage personnel. Et dans une telle perspective, l'artisan joue le rôle d'esclave de la communauté. Et pour citer Aristote, pour les biens de première nécessité, les artisans et les têtes, ce sont des citoyens de dernière classe qui remplissaient des tâches de mercenaires et d'ouvriers à gages. Les citoyens et les têtes sont à la communauté ce que l'esclave est au particulier. L'homme rémunéré, donc l'artisan, devient l'antithèse de l'homme libre, ce que les Grecs appellent le kalos kagathos, l'homme libre et cultivé, le kalos kagathos. Ce préjugé tire ses lointaines origines de la conception aristocratique que les Grecs se sont faites de l'éducation, véhiculant l'idée que l'esclave permettait à l'homme libre de s'affranchir des tâches avilissantes du quotidien et de se consacrer entièrement à une vie de loisirs, raffinée, d'éducation et d'édification spirituelle. Un dernier préjugé permet de mieux comprendre le silence qui entoure l'enseignement professionnel. Il procède là encore d'une opposition entre la paideia, qui tend à une culture généraliste, je vous ai souvent parlé de l'encuclios paideia, et vise à former un homme libre que rien ne limite, et la spécialisation technique qui implique un métier que cherche à dispenser l'enseignement professionnel. Un exemple entre mille de ce désaveu, du renoncement à la culture générale, nous est donné par Platon dans le Protagoras, attaque en règle de la sophistique, lorsque Socrate tient à un certain Hippocrate qui veut devenir l'élève du sophiste Protagoras les propos suivants. Tu t'es instruit auprès du grammatiste, donc le maître d'école élémentaire, du citariste et du pédotribe, le professeur de gymnastique, non pour leur art en vue d'en devenir un praticien, et le mot grec est assez intéressant, c'est demiurgos, qui veut dire justement l'artisan, mais pour ta culture, paideia, comme il convient à un non-spécialiste et un homme libre. Et là, le terme que je traduis par non-spécialiste en grec, c'est idiotès, le simple particulier, justement, celui qui n'a pas de spécialisation. On notera que dans ce passage, Socrate oppose la formation généraliste d'un individu, donc sa paideia, à la spécialisation professionnelle, celle du demiurgos. Quant à la spécialisation technique, je ne donnerai qu'un exemple de sa condamnation, non plus chez Platon, mais chez son disciple, Aristote, qui s'exprime aussi au sujet des instrumentistes professionnels. On a vu que c'était déjà le cas tout à l'heure au sujet de la flûte et d'Athéna. Voici le texte, puisque pour le choix des instruments et pour l'exécution musicale, nous rejetons toute formation technique, techniken paideian, et par technique spécialisée, nous entendons celle qui prépare à des concours, car dans cette forme d'éducation, l'exécutant ne joue pas d'un instrument en vue de son propre perfectionnement, mais pour le plaisir de ses auditeurs, plaisir qui est vulgaire. C'est pourquoi nous jugeons ce genre d'activité digne non pas des hommes libres, mais plutôt des travailleurs spécialisés, des travailleurs salariés, pardon. Et Aristote de traiter dans la phrase suivante l'instrumentiste de banosos, ce terme dont on a vu qui désignait des artisans de façon très disqualifiante. Alors ces deux exemples font du praticien d'un art libéral un artisan qui renie l'idéal de la paideia grecque, qui borne son intelligence, qui, je dirais même presque, se prostitue pour un client qui le paye. Alors, évidemment, les penseurs grecs ont accepté de leur condamnation certaines formes de spécialisation dans le domaine des arts libéraux, comme la médecine. Et encore, quand celle-ci est, pour reprendre les termes des anciens, celle-ci est logique et dogmatique et non pas empirique. Autrement dit, quand elle relève du logos, de la raison, et non de l'empiria, la pratique routinière. Quand elle, justement, elle analyse, comme nous le dit Platon la nature des corps et ne se borne pas à la routine et à l'expérience. Mais dans l'ensemble, penseurs grecs ont condamné la formation spécialisée au nom d'un préjugé profondément et de longue date enraciné dans leur culture. Henri Irénée Marou a très bien diagnostiqué cette prévention dans des lignes écrites au début de l'après-guerre, où le grand spécialiste de l'éducation antique n'hésite pas à confronter la conception grecque avec les bouleversements qu'avait connus la société d'alors, dans la première moitié du XXe siècle. Ce sont de très belles lignes que j'aimerais vous lire. L'idéal de culture classique est en somme à la fois antérieur et transcendant à toute spécialisation technique. Antérieur, l'esprit, une fois formé, est une force admirable, parfaitement libre, totalement disponible pour n'importe quelle tâche particulière. L'éducation hellénistique, continue-t-il, connaît bien un enseignement professionnel, celui qu'assure à un apprenti le maître qu'il accepte comme assistant. Mais l'esprit classique implique une certaine disqualification de cette adaptation limitée en sa portée des vertualités de l'esprit. Il demeure entendu, comme allant de soi, que l'important est d'être un homme intelligent, sachant voir clair et juger droit. Quant au métier, ce n'est l'affaire que d'un effort d'initiation rapide, n'importe qui, pourvu qu'il soit de qualité, pratiquement capable de faire n'importe quoi. D'autre part, l'idéal classique transcende la technique. Humain au départ, l'homme cultivé, même s'il devient un spécialiste hautement qualifié, doit se préoccuper de rester avant tout un homme. Ici, de nouveau, le dialogue avec l'esprit antique se révèle instructif pour le moderne. Nous souffrons d'une évidente surévaluation métaphysique de la technique. Il est peut-être utile d'entendre les Grecs insister sur la finalité humaine qui seule peut légitimer toute activité spéciale. Il y a un terrible impérialisme au sein de toute technique. En vertu de sa logique propre, elle tend à se développer selon sa ligne en elle-même et pour elle-même, et finit par asservir l'homme qui l'exerce. Qui ne mesure aujourd'hui, nous dit toujours Marou, qui ne mesure aujourd'hui à quelle inhumanité peut conduire la science chez le savant, la biologie chez le médecin qui oublie qu'il doit guérir des hommes, la science politique chez l'homme d'État qu'une doctrine trop sûre rend si facilement implacable? Les classiques nous répète que toute institution, toute connaissance, toute technique ne doit jamais devenir une fin en soi. Maniée par des hommes, au service de l'homme, elles doivent toujours se subordonner et dans leur exercice et dans leurs résultats à cette valeur suprême, l'humain. Fin de citation. Eh bien, nul mieux que Lucien n'a davantage fait sentir ce préjugé anti-technique et anti-utilitariste à l'encontre d'activités pouvant être considérées comme une atteinte à l'idéal de la paideia. Alors, vous vous souvenez qu'il raconte dans un écrit que nous connaissons sous le titre de « Songe ou la vie de Lucien » comment il avait choisi de devenir sculpteur en suivant un apprentissage dans l'atelier de son oncle. Alors, nous l'avons laissé la semaine dernière en pleurs, découragé, et renonçant à ce métier. Or, son récit ne s'interrompt pas là. Lucien fait un rêve qui donne la clé de son récit et qui apportera une illustration lumineuse à mon propos sur le discrédit de la formation professionnelle dans la mentalité grecque. Alors, le texte est un peu long, mais je crois qu'il est absolument décisif pour mon propos. « Il me vint un songe », nous dit Lucien. Deux femmes, m'ayant pris les mains, me tiraient chacune à elles avec force et violence, si bien qu'il s'en fallut de peu qu'elles ne m'arrachassent les bras dans leur rivalité. Tantôt l'une l'emportait et m'avait presque tout entier, tantôt je passais de nouveau au pouvoir de l'autre. Elles se criaient l'une à l'autre, la première, je veux l'avoir parce qu'il est à moi, la deuxième, tu t'arroges en vain le bien d'autrui. L'une était une ouvrière, virile, aux cheveux sales, les deux mains pleines de cale, une ceinture à sa robe. Elle était couverte de poussière de marbre, comme mon oncle quand il grattait ses pierres. L'autre avait un beau visage, un maintien noble, un manteau drapé avec décence. À la fin, elles s'en remirent à moi. pour juger de laquelle des deux, je voulais être le disciple. Celle qui était d'aspect rude et viril parla la première. « Mon cher enfant, je suis l'art de la sculpture. » Et le mot grec qui est employé à cet endroit-là est « hermoglyphique techné », c'est-à-dire celui qui sculpte des Hermès. Hein, vous savez, ces espèces de statues quadrangulaires qui portent une tête d'Hermès sur le dessus et qui souvent délimitaient des lieux. « Je suis l'art de la sculpture dont tu as reçu hier la première leçon. » Je suis une amie et une parente de ta maison, car ton grand-père, elle cita le nom du père et de ma mère, était sculpteur, et tes deux oncles ont grâce à moi une grande réputation. Et là, vous noterez hein, l'insistance de Lucien sur les liens de parenté qui expliquent le plus souvent les choix d'embrasser tel ou tel métier qui conditionne la nature de la formation que suit un jeune. « Si tu veux t'abstenir des bavardages et des niaiseries de celle-ci, » elle montrait l'autre, « me suivre et t'attacher à moi, tout d'abord tu recevras une mâle éducation. Tu auras des épaules fortes. » Et là, vous voyez, on retrouve le thème de l'artisanat qui déforme le corps, ici évidemment exprimé de façon positive. « Tu seras étranger à toute espèce d'envie. Tu ne quitteras jamais ta patrie et tes parents pour t'en aller à l'étranger. » Ce n'est pas pour tes discours que tout le monde te louera. N'aie point de répugnance à la simplicité de mon extérieur, ni à la saleté de mon habit. C'est en commençant ainsi que le fameux Phidias, et là il va citer le nom des plus grands sculpteurs grecs, que le fameux Phidias a mis au jour son Zeus, que Polyclète a fait son Héra, que Miron s'est fait applaudir et Praxitèle admirer. Car ces illustres artistes sont adorés avec leurs dieux. Si tu prends rang parmi eux, qui pourrait douter que tu ne sois un jour célèbre dans le monde entier? Tu feras de ton père un homme envié et tu rendras ta patrie illustre. » La sculpture prononça ces paroles et bien d'autres encore en bredouillant et en écorchant une foule de termes comme une barbare enfilant ses mots très vite et s'évertuant à me persuader. Mais je ne m'en souviens plus. La plus grande partie s'est échappée de ma mémoire. Et là, vous voyez, c'est très intéressant parce qu'on voit une critique du métier manuel et de la spécialisation technique qui tourne le dos à l'idéal de la paideia, paideia qui vise avant tout la maîtrise de la langue et du raisonnement, notamment à travers la rhétorique. Quand elle eut fini, l'autre commença à peu près ainsi. « Moi, mon enfant, je suis l'étude. » Et quel mot est employé ici? Je vous le donne en mille. Paideia. Je te suis déjà connu et familière. Évidemment, il est allé à l'école. Je te suis déjà connu et familière, bien que tu ne m'aies pas pratiqué jusqu'au bout. Quel bien tu te procureras si tu deviens tailleur de pierre? Et le mot qui est utilisé ici est lithoxoos, terme qui dévalorise le métier de sculpteur. Juste un simple tailleur de pierre. Cette femme te l'a dit, en réalité, tu ne seras qu'un ouvrier, et ça y est, le mot est lâché, ergates, l'artisan, l'ouvrier, travaillant de tes mains. Le texte grec dit littéralement de ton corps, un terme qui file l'antithèse entre l'artisan qui est du côté du corps et l'homme de la paideia qui est du côté de l'esprit. Donc travaillant de tes mains et fondant sur elles tous les espoirs de ta vie. Tu seras toi-même obscur, réduit à un salaire modique et vil, humble d'esprit, inaperçu dans tes sorties, impuissant à secourir tes amis, à faire peur à tes ennemis, à faire envie à tes concitoyens, simple ouvrier, un homme perdu dans la populace, tremblant toujours devant les grands, faisant la cour à celui qui sait parler, menant une vie de lièvre, et là vous avez une référence à peine voilée à Démosthène, hein, qui qualifiait son ennemi Échine de lièvre, menant une vie de lièvre, proie désignée pour le puissant, et vous retrouvez là encore l'idée de l'artisan dépendant de celui qui le paye et qui a abdiqué sa liberté. Quand tu deviendras un Phidias ou un Polyclète, quand tu ferais une foule d'ouvrages admirables, c'est à ton art qui auront toutes les louanges. Mais personne parmi ceux qui auront vu tes chefs-d'œuvre, pour peu qu'ils aient du sens, ne souhaitera d'être pareil à toi, car quelle que soit ta valeur personnelle, on ne verra en toi que le manœuvre, et le mot qui est utilisé est très révélateur, banosos, justement, l'artisan, celui qui vit du travail de ses mains. Si au contraire, c'est moi que tu écoutes, eh bien je te ferai connaître d'abord une foule de choses sur les hommes d'autrefois. Je te rapporterai ce qu'ils ont fait d'admirable, ce qu'ils ont dit. Je ferai de toi un savant presque universel. En même temps, j'ornerai ton âme. Et là, Lucien continue l'antithèse avec le corps auquel se résume le travail artisanal. J'ornerai ton âme, la partie souveraine en toi, d'une foule de belles choses, tempérance, justice, piété, douceur, équité, intelligence, patience, amour du beau, aspiration à l'idéal. Car voilà vraiment les purs ornements de l'âme. Rien de ce qui s'est fait autrefois, rien de ce qui doit se faire à présent ne t'échappera. Bien plus, avec moi, tu prévoiras même l'avenir. En un mot, je t'apprendrai bientôt tout ce qui est chose divine et chose humaine. Alors, si vous voulez, normalement, on ne pose pas de questions pendant le cours, mais si vous voulez, après, vous pourrez venir me voir et je vous donnerai la page. Celui qui, à présent, est pauvre, fils d'un inconnu qui, naguère, s'était décidé pour un métier civil, sera, dans peu, un objet d'émulation et de jalousie pour tous, honoré et loué, réputé pour les plus belles qualités, admiré de tous ceux que distinguent leur noblesse ou leur richesse, vêtu d'un habit comme celui-ci, et elle montrait le sien, qui était tout à fait brillant, jugé digne du pouvoir et de la première place. Et quand tu iras en voyage, même en terre étrangère, tu ne seras pas inconnu et obscur. Et vous noterez ici que l'artisan, justement, est un sédentaire. Tu ne quitteras jamais ta patrie et tes parents pour t'en aller à l'étranger. Et ainsi, condamné à l'obscurité, alors que l'homme de la paideia voyage, il est appelé à l'étranger, justement, par sa réputation. Et vous vous souvenez peut-être de ce que je vous avais dit sur les professeurs, il y a 2 ou 3 ans, que ceux-ci étaient amenés à voyager, hein, d'un pays à l'autre, d'une province à l'autre. Je continue le texte de Lucien. « Je mettrai sur toi des marques si éclatantes que chacun de ceux qui te verront, poussant son voisin, te montrera du doigt en disant « c'est lui ». Et si quelque événement important surprend tes amis ou la cité elle-même, tous les regards se tourneront vers toi et s'il arrive que tu prennes la parole, la foule t'écoutera bouche bée, pleine d'admiration pour la force de tes discours et félicitera ton père d'avoir un tel fils. Et ce qu'on dit de certains hommes qui sont devenus immortels, ben je l'accomplirai pour toi. Car lors même que tu auras quitté la vie, tu ne cesseras point de vivre avec les gens cultivés. » Et le terme qu'utilise ici Lucien est pépaïdoménos, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la paideia. Tu ne cesseras point de t'entretenir avec les beaux esprits. Tois aristois, nous dit Lucien, c'est-à-dire les meilleurs termes avec qui manifeste un relent de la conception aristocratique de la culture. Vois ce fameux Démosthène de qui il était le fils et quel grand homme j'en ai fait. Vois Échine, fils d'une joueuse de tambourin, comme Philippe l'a honoré à cause de moi. Socrate est levé lui aussi sous la main de cette statuaire. Il se trouve qu'on sait, certains auteurs comme Pausanias ou Diogène Laërce nous rapportent que Socrate a commencé une carrière de sculpteur. Socrate n'eut pas plutôt compris qu'il avait mieux à faire qu'il s'enfuit de chez elle et passa de mon côté. Et tu entends comme il est célébré par tout le monde. Si tu laisses là ces hommes d'une grandeur et d'un mérite incomparable, leurs actions éclatantes et leurs discours vénérables, si tu renonces à une tenue décente, à l'honneur, à la gloire, à la louange, au siège d'honneur, au pouvoir, au commandement, à la réputation d'orateur, aux applaudissements dus au génie, tu n'as plus qu'à revêtir une mauvaise tunique malpropre, qu'à t'accoutrer en esclave, hein, toujours le thème de l'artisan qui n'est pas un homme libre, qu'à prendre en main levier, ciseaux, couteau, burin, puis la tête baissée sur ton ouvrage, penchée, courbée vers la terre et à baisser de toute manière, ne relevant jamais la tête, hein, façon, là encore paroxystique, de stigmatiser la sédentarité de l'artisan dont le travail assis par terre est symbolique en fait de sa position socialement inférieure. Étranger à toute pensée mâle ou libre, tu ne songeras qu'à tes ouvrages pour leur donner de l'harmonie et de la grâce. Quant à devenir toi-même harmonieux et gracieux, tu n'en auras nul souci et tu te rendras toi-même moins estimable que les pierres. » Elle parlait ainsi. Elle parlait encore que, sans attendre la fin de son discours, je me levais, prononçais ma décision et, quittant cette laide ouvrière, je passais du côté de l'étude, de la païdéia. Le cœur en joie, surtout en pensant au bâton et à la grêle de coups que la sculpture m'avait fait asséner la veille à mon début. En se voyant délaissée, elle s'indigna d'abord, se choqua les mains l'une contre l'autre et grinça des dents. À la fin, comme on le raconte de Niobé, elle devint raide et fut changée en pierre. Si vous trouvez cela extraordinaire, eh bien, ne vous montrez pas incrédule, car les songes opèrent des miracles. Mais l'autre, tournant les yeux vers moi, « Eh bien, dit-elle, je vais te récompenser de ce jugement, car tu as bien jugé le procès. » Évidemment, vous avez ici un clin d'œil au jugement de Paris. « Viens maintenant, monte sur ce char. » En même temps, elle me montrait un char attelé de chevaux ailés qui ressemblait à Pégase, « afin que tu saches quelle chose, quelle grande chose tu aurais ignorée si tu ne m'avais pas accompagné. » Quand je fus monté, elle poussa les chevaux et les rênes en main, les conduisit. Élevé dans les hauteurs du ciel, je regardais en partant du levant pour aboutir au couchant les villes, les nations et les peuples, jetant comme Triptolème une sorte de semence sur la terre. Mais je ne me rappelle plus de ce que c'était. Tout ce que je sais, c'est que des hommes qui regardaient d'en bas me louaient et que ceux chez qui j'arrivais accompagnaient mon vol de leur acclamation. Et donc là, on assiste à une véritable apothéose, hein, au sens propre du terme, de Lucien qui a choisi la païdéia. Voilà la vision que j'eus au sortir de l'enfance. Mais Lucien veut donner à son récit une valeur paradigmatique et morale, et c'est la conclusion de quelques lignes que je vais vous lire maintenant. « Si je vous ai raconté mon songe, c'est pour que les jeunes gens prennent le meilleur parti et s'adonnent à l'étude, païdéia. Surtout ceux que la pauvreté inspire mal et incline vers le pire et qui sont prêts à gâter un naturel qui n'est pas sans noblesse. Ceux-là, j'en suis sûr, se serviront, encouragés par mon récit, et ils se proposeront mon histoire comme un exemple qui s'applique à eux en considérant de quel point de départ je me suis élancé vers la plus belle carrière et me suis attaché à l'étude, païdéia, sans me laisser décourager par la pauvreté qui me pressait alors et qu'elle enfin je suis revenu vers vous, non moins illustre, pour ne rien dire de plus qu'aucun tailleur de pierre. » Alors vous voyez, c'est un texte absolument magnifique, hein, qui synthétise en une mise en scène extrêmement vivante, évocatrice, toutes les valeurs qui entourent les arts manuels et les arts libéraux, dans un contraste saisissant qu'elle met ici en valeur justement grâce au recours à l'allégorie ou à la prosopopée. Et pourtant, ce n'est pas un obscur métier artisanal qu'a choisi Lucien comme faire valoir de la païdéia, mais celui de la sculpture, hein, qui relève de l'art et qu'on aurait pu croire épargner justement des critiques pesant sur les arts manuels. Mais de même qu'Aristote condamnait les musiciens qui dénaturent la pratique, par la pratique, la musique en soi, un des arts libéraux, hein, dont la théorie est enseignée dans le cadre de l'Enkyklios Paideia, et bien de même, la sculpture est ravalée au rang d'artisanat, probablement parce qu'elle implique une pratique routinière et technique qui en altère la transcendance artistique. Les métiers dont je compte vous parler cette année relèvent du même schéma. Le scribe ou le copiste ont beau manier les écritures et les mots dans le sillage de l'enseignement du grammatiste ou du rhéteur, du grammairien ou du rhéteur, ils ne sont que des exécutants, que des ouvriers des lettres. On pourrait aller jusqu'à dire qu'ils sont aux décideurs dont ils prennent en copie les décisions, par exemple, aux écrivains dont ils recopient les œuvres, ce que les instrumentistes ou les sculpteurs sont à l'art. Leur formation, dans le contexte éthique et psychologique, hein, que je viens de dégager, ne pouvait être que voué à une forme de discrédit ou d'indifférence de la part des auteurs qui auraient été susceptibles de nous les faire mieux connaître. Discrédit et indifférence qu'aurait à son tour embrassé la recherche moderne. Comme le rappelle, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire au premier cours, et comme le rappelle l'auteur du chapitre sur les esclaves dans le Companion to Ancient Education. Je vous cite juste quelques lignes. Ce que l'on appelle l'éducation libérale ou élitiste diffère considérablement du type d'éducation populaire que la plupart des enfants, esclaves ou libres, auraient reçu. Contrairement à l'éducation élitiste, l'éducation populaire était professionnelle et impliquait la transmission de compétences dans l'agriculture et d'autres métiers. Bien que l'éducation populaire ait donc été beaucoup plus répandue, et c'est là ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, les études modernes ont tendance à refléter nos sources qui se concentrent principalement sur les préoccupations des couches les plus riches de la société antique. Alors, un tel état d'esprit qui plonge ses racines, on l'a vu, dans une vieille tradition aristocratique grecque, ne pouvait toutefois que se retrouver de plus en plus en décalage avec l'évolution politique, avec l'évolution scientifique du monde gréco-romain sous la domination romaine. C'est d'ailleurs ce que nous dit expressément l'auteur anonyme du De Rebus Bellicis, un traité sur les machines de guerre utilisées par l'armée romaine et datable de du troisième quart du IVe siècle. Alors, l'auteur anonyme qui, comme nous le dit l'éditeur de ce texte dans la collection des universités de France, Philippe Fleury, qu'il présente comme un particulier, autrement dit justement un non-spécialiste, et comme il le martèle constamment dans son texte, inspiré par le loisir et pas trop étranger au côté pratique des choses, eh bien cet auteur débute son texte presque avec les mots que vous avez à l'écran. Il est en effet évident pour chacun que ce ne sont ni une très haute noblesse, ni une abondance de richesses, ni les pouvoirs liés aux magistratures ou une éloquence littéraire qui ont apporté quelque chose aux techniques, y compris même à l'invention des armes, mais seulement la puissance de l'intelligence qui est la mère de toutes les qualités et qui repose sur une heureuse prédisposition naturelle. Nous voyons bien que cela se produit sans choix des personnes, car alors que les nations barbares n'ont pas la puissance de l'éloquence ni l'éclat des fonctions officielles, ces gens, la nature aidant, ne sont pourtant pas du tout considérés comme étrangers aux inventions pratiques. Et là, vous avez une remarque qui est assez intéressante, qui montre l'évolution de l'image que les Romains se sont faite en matière de capacité technique, l'image que les Romains se sont faite des barbares dans le domaine de la technique. Au 1er siècle, Sénèque et Tacite les considéraient comme ignorants dans le domaine de la mécanique militaire, alors qu'au 6e siècle, donc après notre auteur, Procope de Césarée rappelle que les Romains demandaient de l'aide à leurs alliés barbares, les Sabiriens, pour venir à bout des remparts de Pétra. À l'époque de l'auteur de ce traité, on reconnaît un savoir-faire technique aux barbares, mais encore guère, en fait, une capacité d'innovation. Et que nous dit ce texte, finalement ? La paideia, à laquelle fait allusion l'expression « l'éloquence acquise par les lettres », n'est pas suffisante en soi pour aboutir à des progrès techniques. L'esprit de technicité n'a rien à voir avec la culture générale enseignée à l'école, comme le montrent bien les barbares, justement, qui ne savent même pas le latin et le grec, qui est le fondement de la paideia. Et cet esprit de technicité, eh bien, il doit être cultivé spécifiquement. Ce décalage entre les missions de l'éducation traditionnelle et les besoins actuels, ce sont avant tout les Romains qui vont y rendre les Grecs de plus en plus sensibles et leur apprendre à le combler. L'éducation romaine, qui bénéficie d'une tradition pédagogique originale, tout en s'hellénisant au contact des Grecs, de leur culture et de leur population, va en retour influencer peu à peu la paideia grecque à la faveur de la conquête romaine et de la romanisation des provinces orientales de langue grecque, comme l'Égypte. Cette influence, en essayant de réduire l'hiatus entre école et vie professionnelle, se traduit par un tour plus pratique donnée à l'enseignement. Et Sénèque ne critiquait-il pas déjà l'inanité d'une école déconnectée du réel, en concluant avec regret une des lettres adressées à Lucilius, nous émoussons sur des choses vaines les subtilités de notre esprit, tout cela ne fait pas des hommes de bien, mais des doctes. Nous étudions non pour la vie réelle, mais pour l'école. L'esprit latin va chercher à réconcilier l'enseignement avec la vie professionnelle en faisant du premier une propédeutique à la seconde. L'enseignement de la rhétorique, si central chez le grammairien et le sophiste, donc le niveau médian et supérieur de l'enseignement généraliste, se met à privilégier, à côté de sujets liés à la mythologie, à l'histoire légendaire de la Grèce, dont l'école grecque a toujours été si friande, eh bien, se met à privilégier des sujets concrets en rapport avec la vie réelle et le contexte juridique et politique contemporain. Il suffit, pour s'en rendre compte, d'ouvrir la rhétorique à Hérénius, qui est un manuel datable du 1er siècle avant Jésus-Christ, pour voir tout ce qui sépare la rhétorique latine, et dont ce traité est le premier manuel conservé, tout ce qui sépare la rhétorique latine de la grecque. Certes, loin de tourner le dos à ses collègues grecs, l'auteur est profondément marqué par la rhétorique grecque, il ne pouvait pas en être autrement. Il est marqué par cette rhétorique dont il synthétise plusieurs courants. Mais il cherche à acclimater leur rhétorique à un certain esprit latin. Dès son préambule, il affecte de mépriser ses prédécesseurs grecs qui ont privilégié une érudition inutile pour insister sur l'application concrète et la dimension la plus pratique possible. Il nous dit « J'ai laissé ce que les Grecs, auteurs de manuels, sont allés chercher pour en faire un vain étalage. Dans la crainte de paraître trop peu savants, ils ont pris des éléments hors sujet pour qu'on crût leur science plus difficile à connaître. Pour moi, en revanche, j'ai adopté ce qui me paraissait en rapport avec l'art de la parole. Maintenant, pour ne pas prolonger à l'excès mon propos, vous voyez, en fait, il arrête son préambule très très vite, il fait une introduction à son traité extrêmement courte et qui fait preuve d'une sobriété toute romaine et volontairement anti-rhétorique. Donc, pour ne pas prolonger à l'excès mon propos, je vais aborder le sujet après t'avoir fait observer ce point important. La théorie sans la pratique assidue de la parole n'est pas d'un grand secours. Tu comprendras ainsi qu'il faut mettre en application dans des exercices ces préceptes abstraits. Et la nécessité de s'exercer, de l'exercitatio, est souvent martelée par l'auteur. Et le reste de ce manuel est à l'avenant. Renonçant à s'en tenir uniquement aux exemples mythologiques cultivés par les Grecs, l'auteur fait entrer le présent dans les exemples traités. Le texte fourmille de cas réels empruntés à l'histoire récente. Par exemple, faut-il accuser celui qui a tué le tribun Publius Sulpicius, même s'il dit l'avoir fait sur les ordres des consuls ? Là, vous avez une référence à l'assassinat commandité par Sylla en 88, ou d'autres cas renvoyant à la situation politique. Il y a question, par exemple, de la guerre sociale en 90-88, avant Jésus-Christ. Sont prises en compte aussi les situations concrètes du discours, dans ce qu'elles ont de plus connecté avec le réel, lors d'un procès, au Sénat, devant un général ou un conseil militaire. L'éloquence ne dédaigne jamais le contexte juridique, pour autant que, nous dit l'auteur, les états de la cause sont au nombre de trois, l'état conjectural, l'état légal, l'état selon le droit. Ainsi, l'auteur aborde-t-il des cas relevant du droit maritime ou du droit successoral. Et on ne s'étonnera pas, justement, de la présence forte de l'arrière-plan juridique dans un manuel de rhétorique écrit dans la langue même des inventeurs du droit romain. Ce droit qui va s'imposer à toutes les provinces qui vont passer sous la domination romaine. La mise en place d'une administration romaine dans l'ensemble de l'Empire et la nécessité de diffuser et de faire observer le droit romain à partir du moment où l'ensemble des populations sont assimilés au corps des citoyens, ce qui se produit avec la constitution antoninienne de 212, eh bien, tout cela oblige l'État romain à recruter un personnel qualifié qui connaisse le latin et le droit. J'aurai l'occasion de revenir sur ce point plus longuement. La paideia grecque, qui privilégie un idéal de connaissance généraliste aux dépens de la spécialisation et de la technicité, est un frein au développement d'un État bureaucratique qui, pour répondre à ses besoins d'efficacité, se retrouve dans la nécessité d'infléchir la conception quelque peu dépassée d'éducation libérale grecque en créant des filières qui lui permettent de former assez tôt de futurs juristes, de futurs fonctionnaires prêts à rejoindre les rangs de son administration. Et la régression de l'esclavage au IVe siècle, lorsque l'approvisionnement en esclaves devient plus difficile avec la récession des guerres de conquête, la régression de l'esclavage rend d'autant plus nécessaire la formation d'agents techniques qui remplissent la pléthore de tâches subalternes qu'impliquent les multiples rouages administratifs. On comprend alors que l'État romain se soit intéressé de près à l'école et cherché à accommoder à ses besoins, particulièrement à partir de Dioclétien, et chercher à accommoder cette école, donc, notamment, je le disais, à partir de Dioclétien, qui fit de cet État, pour employer le terme de Marot, une monarchie bureaucratique. Et je parle de Dioclétien, mais Constantin lui emboîta ensuite le pas. L'action gouvernementale en la matière a même été qualifiée d'offensive de technicité. L'expression est due à un spécialiste de Libanios, Paul Petit. Offensive de technicité, tant l'État avait un besoin urgent de techniciens et non plus de beaux parleurs, au savoir aussi large que superficiel ou, soyons gentils, peut-être inadapté. Constantin, par exemple, orienta de force certains étudiants d'Afrique vers des études d'architecture, accordant aux architectes et un nombre d'artisans des exemptions qui, jusqu'ici, étaient réservées aux enseignants. Le même Constantin promulgua en 331 une loi déclarant que les fils des membres du personnel administratif, que leur père soit encore en fonction ou ait déjà quitté leur fonction, succéderont à leur père dans leur poste. Et ce privilège fut ensuite interprété comme un devoir les successeurs de Constantin tentèrent de former une caste héréditaire de fonctionnaires, comme le dit Kundorevitch, dont vous avez l'étude citée à l'écran. Ainsi, le fils de Constantin, Constance II, commença même à recruter ses fonctionnaires parmi les tachygraphes, les techniciens de l'écriture sténographique, qui n'avaient pas fait le plus souvent d'études classiques, comme Semplin Libanios, ainsi que nous allons bientôt le voir. Après la parenthèse du règne de Julien, qui diminua le nombre de fonctionnaires et réserva les postes supérieurs à des païens formés selon la tradition de la libre culture non assujettie aux dictats de la spécialisation, le contrôle intéressé de l'État sur les étudiants reprit et aboutit à des mesures extrêmes avec Valentinien, qui, en 370, promulgue une loi qui assure la surveillance stricte des étudiants fréquentant les écoles de Rome et de Constantinople. Toutes les personnes qui viennent dans la ville dans le but d'étudier doivent, dès leur arrivée, présenter aux responsables du fisc les documents écrits, requis, émis par leurs juges provinciaux respectifs qui doivent leur accorder le droit de venir dans la ville. Ces documents doivent contenir le nom de la municipalité d'origine de chaque étudiant ainsi que son certificat de naissance et des lettres de recommandation attestant de ses résultats scolaires élevés. Vous voyez, les lettres de recommandation, ça existait déjà. Deuxième lieu, immédiatement après leur inscription, les étudiants doivent indiquer la profession qu'ils ont l'intention d'étudier. En troisième lieu, le bureau d'évaluation fiscale doit soigneusement enquêter sur la vie des étudiants dans leur lieu d'hébergement afin de s'assurer qu'ils consacrent effectivement leur temps aux études qu'ils affirment poursuivre. Ces mêmes fonctionnaires chargés de l'évaluation fiscale avertiront les étudiants qu'ils doivent se comporter dans leurs assemblées comme des personnes qui considèrent qu'il n'est pas de leur devoir d'éviter une réputation honteuse et scandaleuse et de mauvaise compagnie que nous considérons comme la pire chose après la criminalité proprement dite. Les étudiants ne doivent pas non plus assister trop fréquemment à des spectacles, ni prendre part à des beuveries inopportunes. Et la fin de la loi, en fait, nous montre bien quelle était l'intention réelle de l'empereur. Les registres seront envoyés chaque année au bureau de notre Clément, c'est-à-dire nous, afin que nous puissions prendre connaissance des mérites et de l'éducation des différents étudiants et juger s'ils pourraient un jour nous être utiles. Il s'agit donc, vous voyez, de capter une partie des étudiants méritants en les détournant des voies traditionnelles pour les rabattre dans les administrations. Et deux figures sur lesquelles j'aurai l'occasion de m'attarder plus longuement lors d'un prochain cours incarnent ce renouvellement et témoignent du virage que prend l'enseignement avec l'introduction des filières spécialisées aux dépens de la filière classique du rhéteur. Alors la première, c'est celle du scholasticus. Hein, le grec a repris le terme sous la forme scholastikos, celui qui a fait des études de droit pour entrer dans le barreau, voire pour obtenir de hauts postes dans l'administration impériale. Justement, cette administration qui recrute ses cadres, notamment les gouverneurs de province, de plus en plus parmi les avocats, comme le rappelle cette loi de Théodose II, qui est reprise par Justinien au VIe siècle. On pourrait citer comme cas de scholastikos célèbre qui a gravi les échelons de la carrière administrative, eh bien le chrétien Zacharie le scolastique. Justement, Zacharie le scolastique, hein, son ancien métier de scolastikos est devenu son surnom. C'est lui qui est devenu ensuite évêque de Mytilène. Donc c'est un personnage qui a vécu entre les années 460 et 550 et qui, alors qu'il était à Alexandrie pour étudier la rhétorique, décida justement de partir à Beyrouth, à Beyrouthos, faire son droit avant de faire carrière à Constantinople comme avocat, puis comme fonctionnaire. La seconde figure, à un échelon inférieur, est celui du tachygraphe. Alors là aussi, j'aurai l'occasion de revenir sur le tachygraphe, le semiographos en grec, et les exercices qui permettent de se former à la tachygraphie. Le tachygraphe occupe une place de plus en plus voyante dans l'administration, aussi bien de l'État d'ailleurs que de l'Église, hein, du fait de l'importance qu'acquiert dans ce contexte de bureaucratisation galopante la consignation des procès-verbaux, de réunions, d'auditions, de synodes variés. Il fallait des gens pour prendre note de façon la plus précise possible les débats, les discours, etc. Cette spécialisation attire d'autant plus qu'elle devient, on l'a vu hein, depuis Constance, un marchepied pour des fonctions administratives plus qualifiées rémunératrices. C'est ainsi que Jean le Lydien, 491, qui est mort entre 557 et 561, qui est un auteur à qui on doit plusieurs traités qui nous sont conservés, Jean le Lydien commença sa carrière comme tachygraphe à la préfecture du prétoire avant de gravir les échelons. Il devient un des trois protoi cartularioi, puis cartularos auprès des commentariensis, c'est-à-dire de ceux qui sont en charge de la branche judiciaire de l'administration. Ces deux figures, hein, le scholastikos d'un côté et le tachygraphe de l'autre, sont emblématiques de ce qu'on pourrait appeler une culture de fonctionnaire qui est en train de se mettre en place à partir du IVe siècle et qui prend de plus en plus de terrain face à l'éducation classique. Et ce n'est pas un hasard si à ce changement de paradigme culturel correspond dans le temps une très nette augmentation, voire une explosion même du nombre de papyrus livrant des exercices d'apprentis juristes, d'apprentis secrétaires, comme nous aurons l'occasion de le découvrir plus tard, dès la semaine prochaine. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site. Collège-2-france.fr les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.